nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Focus aujourd'hui s'intéresse à l'utilisation du français dans les sciences. Pour les chercheurs, il est important de communiquer et d'écrire en anglais, ceci afin de pouvoir échanger avec leurs confrères de toute nationalité et de pouvoir être lu par un maximum de personnes. On dit même que l'anglais est la langue des scientifiques pour aller vite. Mais alors, que deviennent les spécificités des autres langues? C'est ce que nous allons voir en compagnie de notre invité, qui ne remet pas en cause l'utilisation de l'anglais en sciences, mais qui souhaiterait que l'on ne gomme pas, sous principe de mondialisation, les écrits en français. Odile Maki, bonjour.
Bonjour Élodie.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes donc membre aux sciences dans la section sciences mécaniques et informatiques. Vous êtes spécialiste de la théorie du signal, de l'information et des communications. J'ajoute notamment que c'est grâce à vous si aujourd'hui nous sommes dans l'ère du tout numérique. Et cela, vous l'aviez déjà envisagé dans les années 70. Mais revenons à notre sujet sur l'utilisation du français dans les sciences, qui fait partie des thèmes qui vous intéressent aujourd'hui. Pour rappel, nous sommes 220 millions à parler français dans le monde, dont 125 millions pour qui c'est la langue maternelle. Vous, de par vos fonctions, Odile Maki, vous maniez la langue de Shakespeare, mais pour partir sur de bonnes bases, disons tout de suite qu'il ne s'agit pas de fustiger l'anglais, mais disons de laisser une petite place au français, c'est ça?
Tout à fait, vous l'avez exprimé parfaitement. Je dois préciser d'abord que je vous parle des sciences que j'appellerais dures, c'est-à-dire les sciences représentées à l'Académie des sciences. Donc, mathématiques, physique, chimie, sciences mécaniques et informatiques, biologie et même médecine. Mais il existe, comme vous le savez, au CNRS, une représentation de beaucoup d'autres disciplines qui sont quand même classées dans les choses scientifiques, ce qu'on appelle, nous, les SHS, sciences de l'homme et de la société. Donc, je précise que je ne parlerai pas de ces disciplines. Je ne veux pas être taxée d'avoir un regard faussé. Ce n'est pas exact. Dans ces disciplines, la situation est tout à fait différente. Et même, elle est différente à l'intérieur des sciences dures. Mais quand même, on peut avoir une vision assez globale.
Alors, restons d'accord sur le domaine des sciences dures, Odile Maki. Il semble que justement, dans le domaine des sciences dures, et notamment des mathématiques, qui font partie des sciences dures, que pour les mathématiques, c'est un schéma un peu particulier. Les mathématiciens français sont nombreux, je crois même qu'ils sont les plus importants au monde par rapport au nombre de Français, que donc les mathématiques françaises sont très représentées, et qu'ils publient en français.
Oui, c'est exact. Les mathématiciens publient souvent en français. Mais je dois dire que ce n'est pas le cas de tous les mathématiciens, et d'autre part, vous me parlez seulement de publication. Or, il faut bien voir que la science, c'est l'écrit et l'oral, et c'est la disons la production et ensuite le partage. Donc, dans ces différents domaines, il y a des nuances. Alors, il est certain qu'on a par exemple un Laurent Laforgue qui a eu la médaille Fields il y a 4 ou 5 ans, ou peut-être un petit peu plus. Je pense que les auditeurs savent ce qu'est la médaille Fields. Il y en a 4 tous les 4 ans, donc ça revient à une par an. Et c'est quasiment l'équivalent du prix Nobel, puisqu'il n'y en a pas dans cette discipline. Donc, Laurent Laforgue, lui, publie pratiquement tout en français, à l'écrit. Ses conférences sont faites en français en France, mais à l'international, il les fait en anglais. Et par exemple, quand il a fait la conférence pour sa médaille Fields, il a envoyé donc des transparents, ce que nous appelons des slides, mais ça, c'est pas beau, c'est du franglais, et donc des vues qui étaient en chinois et en français, tout en parlant en anglais. Donc vous voyez, une courtoisie de la langue chez cet homme. C'est le cas de beaucoup de mathématiciens parce qu'ils lisent le français, en général les mathématiciens.
Alors, c'est une spécificité propre aux mathématiques. Alors, pour les autres disciplines, comment ça se passe?
Alors, pour les autres disciplines, je crois que je vais revenir un petit peu, si vous voulez bien, au fond du problème. Comment se produit la science, si vous permettez? J'avais un peu dans l'idée une comparaison avec un arbre. Voilà, nous sommes des personnes avant d'être des scientifiques. Nous avons appris à parler dans une langue, à raisonner dans une langue. Nous avons échangé à l'école et notre entourage en français, parlant des personnes qui sont de langue maternelle, le français. Et ça a forcément modelé notre pensée, et ça restera toute notre vie. C'est pareil pour ceux qui sont de naissance anglophone. Je me rappelle une chose qui m'a énormément frappée. Une de mes amies, qui était américaine d'origine et qui était mariée en France et qui vivait en France depuis 20 ans, eh bien, dans ses derniers moments, sur son lit de mourante, elle ne parlait plus qu'anglais. Donc voyez à quel point nous sommes marqués par notre langue maternelle. Et ça ne peut pas ne pas marquer le processus de production de la science. Donc si je vois un peu la science comme production de la science comme production de fruits, eh bien avant le fruit, il y a l'arbre. D'abord, il faut construire l'arbre, et c'est ce que je rappelais, la jeunesse, la graine qui est l'intelligence d'un petit homme et de femme. Il y a la terre, je dirais que la terre, c'est le pays qui a porté au monde cette graine. Il y a les racines, je dirais que les racines, c'est le système éducatif et scolaire. Et puis, il y a le tronc et les branches, et là encore, ce sont des institutions qui sont francophones, ce sont nos laboratoires, ce sont nos grands organismes de recherche, nos universités, qui nous ont accueillis, qui nous ont financés, qui nous ont soutenus, jusqu'à ce qu'on soit capable d'avoir des fleurs sur cet arbre. Dans tout ça, c'est la base, et on l'oublie peut-être, parce qu'on regarde que les fruits calibrés dans le cajot, c'est-à-dire les découvertes, mais on oublie l'écologie, je dirais, hein, de tout ça, qui est francophone. Ensuite, il y a la partie partage des fruits. Une fois que les fruits ont mûri, ils ont mûri donc dans un contexte qui est francophone pour nous, naturellement, c'est ce que vous avez mentionné en introduisant l'émission, eh bien, il faut dialoguer avec nos confrères, avec nos collègues des autres pays, pour certifier qu'on a vraiment trouvé quelque chose qui est valable. Ça ne suffit pas du contexte régional, même continental, puisque maintenant la science se fait beaucoup au niveau Europe. Ça ne suffit pas pour certifier qu'on a vraiment fait une découverte. Il faut se coltiner de rencontrer la contradiction au niveau mondial. Voilà, alors ça, c'est obligatoirement en anglais parce que c'est la langue de la communauté internationale.
Alors, restons sur ces scientifiques qui ont donc cette langue internationale pour pouvoir communiquer. Précisons que cette langue, l'anglais, est important dans le sens où il est important d'être cité dans les articles et du nombre de citations va dépendre les crédits d'un chercheur pour l'année suivante. Ce qui peut justement favoriser, et on le comprend bien, des publications exclusivement en anglais pour avoir la chance d'être cité, et cela de nombreuses fois.
Tout à fait, je comprends ce que vous dites. C'est un point fondamental qui est un point assez nouveau, qui vient de paraître depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, qu'on appelle la bibliométrie. Donc à ce sujet, je me permets de signaler que l'Académie des sciences vient de produire deux rapports. Un rapport sur l'évaluation des chercheurs, c'est assez général, il a dû sortir en 2009 ou 10, et un autre qui le prolonge et qui s'appelle « Du bon usage de la bibliométrie ». Donc, dans l'évaluation des chercheurs, hein. C'est-à-dire, là, on se situe au plan de la carrière d'un chercheur. Alors, vous voyez, si on se reporte au siècle passé, la science, c'était un acte gratuit. C'était des gens riches qui pouvaient mettre des sous pour se faire leur laboratoire, même Branly, c'était presque encore le cas. Mais enfin, ça a changé au 19e siècle. Mais jusque-là, comme c'était un acte gratuit, il n'y avait pas cette nécessité que le pays, la nation qui rémunère, évalue justement si les personnes travaillent comme il convient, vu la manière dont on les rémunère. Donc la science étant devenue très répandue, il y a des millions de chercheurs dans le monde. Je crois qu'en Chine, il y en a plusieurs centaines de milliers. Chez nous, au CNRS, on est 14 000. Et si on regarde l'ensemble des institutions, enfin disons des organismes de recherche pure, ça doit faire, je ne sais pas, peut-être 50 000. Donc ça fait quand même beaucoup de monde, et c'est bien normal que ces personnes soient évaluées, c'est tout à fait normal. Mais ça, vous le savez, mais je pense que tous les grands dirigeants le savent, c'est vrai dans toutes les grandes entreprises, dès lors qu'on établit un critère, eh bien on sait que ça va être changé, le résultat va être changé. J'en parlais avec un grand dirigeant de France Télécom, n'établit pas des critères sans prévoir à l'avance la manière dont les manières des personnes vont changer. Donc les chercheurs, qui ne sont pas en général des personnes sottes, adaptent leur manière de faire à cette nouvelle situation. Alors, elle a du bon parce qu'elle permet, en effet, plus facilement, disons que c'est un outil, c'est ce que le rapport sur le bon usage de la bibliométrie est un outil pour savoir comment s'en servir. Mais si on remplace l'évaluation par un critère bibliométrique, c'est-à-dire on remplace une personne par un nombre, on est évidemment dans le faux. Donc là, ça, c'est important que vous me fassiez parler sur ce sujet. La bibliométrie, le rapport de l'Académie insiste dessus, ne doit être manipulée que par les pairs, P-A-I-R-S, parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément de pièges dedans. Si on y revenait, je pourrais citer tous ces pièges. Mais très grosso modo, c'est que le chercheur peut publier pour une image qu'il donne et non pas pour le contenu. Et il faut se méfier de tous ces pièges-là pour les éviter. Alors on en revient au fond du débat qui était la langue française. Et bien entendu, puisque on risque d'avoir son salaire qui dépend, ou sa carrière, enfin son niveau de reconnaissance, qui dépend du nombre de fois où on est cité, eh ben, on va être obligé de s'adapter et de se citer. Pour être cité, ben, il faut que les gens vous lisent. Pour que les gens vous lisent, il faut qu'ils vous comprennent. Voilà, donc nécessité pour toutes les revues d'être inscrites dans les grandes bases de données bibliométriques, dont la principale pour les scientifiques de mon domaine, c'est ISI Thomson. Mais même une revue francophone peut être inscrite dans ces bases de données, il ne faut pas croire. Et dans mon domaine, il y a 2 ans, on a fait l'aggiornamento nécessaire que la revue qui s'appelle Traitement du signal soit donc référencée dans la base de données en question. Alors bien entendu, pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il y ait une partie de l'article en anglais, en résumé long, qui permette à un anglophone de voir de quoi il s'agit.
Alors justement, ces revues scientifiques, elles sont donc essentiellement en anglais, mais il existe aussi des revues scientifiques où il y a la coexistence des deux langues.
Voilà, ben par exemple, l'Académie des sciences en est un bon exemple, qui maintenant publie en anglais, mais avec un résumé étendu en français. Donc c'est quelque chose qui est courant.
Et ça, est-ce qu'on pourrait l'envisager pour la totalité des revues scientifiques ?
Pour le moment, je ne pense pas que ce soit envisageable, parce que les très grandes revues, parce que les chercheurs se comparent les uns aux autres en fonction du nombre de publications dans 2 grandes revues, qui sont Science et Nature. Donc, je ne crois pas qu'on peut imaginer que Science et Nature publient en français. Néanmoins, il faut bien savoir que ça n'est pas la preuve de qualité. Donc, deux prix Nobel 2010, n'est-ce pas, avaient vu leurs articles refusés dans Nature. Leurs articles à la base de leurs découvertes, il y a plusieurs décennies, parce qu'on n'a pas le prix Nobel aussitôt après. Ils avaient publié dans Science, mais Nature avait refusé. Donc, il faut savoir que ces 2 grandes revues, il ne suffit pas que la revue soit en anglais, il ne suffit pas qu'elle soit très prestigieuse pour que le contenu soit bon. C'est article par article qu'il faut évaluer le travail d'un chercheur.
Alors, si on regarde effectivement l'étendue de l'anglais, on voit bien que l'anglais est la langue utilisée partout dans le monde. Pour autant, si on regarde nos voisins chinois, appelons-les comme ça, ils sont plus d'1,35 milliard. Alors, est-ce qu'on peut envisager à terme, non pas des publications en anglais, mais plutôt en chinois, puisqu'en plus, les scientifiques chinois sont très nombreux.
Ah bien, écoutez, Elodie, là, je crois qu'il faudra avoir la boule de cristal. Moi, si je réfléchis un petit peu comme ça à plus long terme, je m'aperçois que la civilisation égyptienne est morte parce que ils ont eu des mercenaires en très grand nombre. Et puis voilà, on n'a plus trop parlé de la prédominance égyptienne. Ensuite, c'était la même chose chez les Grecs, chez les Latins. Donc, qui sait, qu'est-ce qui va se passer pour l'Empire américain ? Personne ne sait. Et le futur Empire chinois. Donc moi, je pense que le monde est fait de diversité. Que vous connaissez la tour de Babel. C'est bizarre, mais c'est Dieu qui est venu disperser les hommes sur la terre. En fait, ils s'étaient tous concentrés au même endroit. Ça ne plaisait pas à Dieu. Il voulait que la terre soit peuplée partout et pas que la langue soit uniforme. Alors Dieu les a dispersés en leur donnant des langues différentes. Moi, je pense que c'est la diversité des langues, c'est de la biodiversité, il faut y tenir. Nous avons une langue absolument magnifique, nous devons la valoriser, c'est pas seulement la défendre, c'est mieux que ça, elle est admirée cette langue. Peut-être que nous-mêmes, notre propre regard de français est biaisé, alors que quand vous arrivez en Afrique francophone, vous vous apercevez de la séduction exercée par la langue française en Afrique francophone. Moi je vais assez souvent en Afrique, par exemple au Congo démocratique, la Grande République, là ils sont, je sais pas, 70 millions, je ne sais pas exactement la proportion de personnes qui vont à l'école, mais toutes les personnes qui écrivent, écrivent en français. Et les Congolais instruits se régalent du français. Tous les cours dans les universités sont en français. Alors pourquoi nous, est-ce que nous abandonnerions le manche ? Nous avons les moyens de faire vivre notre langue.
Alors, permettez-moi d'insister lourdement sur la culture chinoise, et notamment dans le domaine des mathématiques. Il semble que, notamment pour les jeunes chinois, apprendre les mathématiques et l'arithmétique soit beaucoup plus simple parce que la langue propose un raisonnement beaucoup plus simple. Les mots, déjà, au départ, ne font que 1 ou 2 syllabes maximum, et la compréhension des nombres, des chiffres, de l'arithmétique est beaucoup plus évidente que pour les occidentaux. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous lançais sur ces Chinois. Est-ce que, finalement, finalement, l'anglais, et donc le français aussi, est la meilleure langue pour les sciences ? Même si je sais que cette question-là ne vous plaira pas.
Oui, mais je pense qu'en effet, ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que ça montre à quel point il y a une interaction entre la pensée et la langue. On s'imagine qu'on va passer d'une langue à l'autre. On voit bien à quel point c'est plus un changement de mentalité quand on passe d'une langue à l'autre. Les personnes qui travaillent en sciences cognitives sur les apprentissages des enfants ou même des bébés, par exemple, je pense à un confrère, Stanislas Dehaene, qui fait des expériences pour voir comment les bébés ont un sens de la numération, et il voit bien que c'est une interaction très forte entre la langue et la pensée. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de sciences cognitives et je ne peux pas vous dire si le français et l'anglais sont mieux adaptés aux mathématiques ou à la physique ou à l'informatique. Vu de chez moi, je pense qu'il y a beaucoup moins de différence entre l'anglais et le français qu'entre le français et le chinois. Alors, pour le chinois, là, franchement, je ne sais pas lire dans la boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons dans nos écoles d'ingénieurs un nombre énorme d'étudiants chinois depuis longtemps, depuis 15 ans, et que si la Chine se développe, c'est quand même bien parce qu'elle est venue chercher les technologies et les sciences dans les universités occidentales, donc anglophones ou francophones. Et on sait quand même bien qu'il s'agit d'imiter en Chine plus que d'inventer. Alors de là à dire que la langue française est plus innovante que la langue chinoise, je ne le dirais pas, mais voyez-vous, je crois qu'on ne peut pas tirer des conclusions hasardeuses d'éléments qui concernent la toute petite enfance pour l'acquisition de la pensée.
Alors, terminons peut-être sur une note, je l'espère en tout cas, positive. Quel est l'avenir du français dans les sciences ? Vous le voyez plutôt de manière positive ou plutôt de manière négative ? Comment vous envisagez son avenir ?
Là, c'est sûr qu'on est dans un moment un peu difficile à cause des jeunes, si vous voulez, parce qu'il y a une pression sur les jeunes. Vu la rareté des postes, au niveau des chercheurs, je parle, ils sont obligés de faire attention à leurs fameux indices, etc. Donc, ils hésitent à publier dans des revues francophones. Je pense que la responsabilité revient aux seniors, qui ont déjà établi leur réputation et qui ne font pas forcément l'effort de publier ce qui est attendu d'eux. C'est-à-dire, peut-être pas des découvertes très pointues qui, elles, en effet, doivent être peut-être publiées d'abord en anglais. Je dirais que moi-même, il m'est arrivé dans ma carrière que je publie une découverte en français et un anglophone la republie sous son nom en anglais parce que comme elle a été dite en français, c'est comme si elle n'avait pas été dite. Donc ça, effectivement, que les jeunes se méfient de ça, ils ont parfaitement raison. Mais les seniors devraient publier des livres en particulier, des livres de référence qui font le tour d'une discipline nouvelle. On a des grands noms qui sont capables de faire ça, c'est attendu par les étudiants. Et ça, ces livres-là devraient être en français. Ensuite, traduits en anglais. Et j'insiste aussi sur le fait qu'à l'écrit, on n'est pas forcément bon. Il vaudrait peut-être mieux pour des choses comme ça. Hein. Je ne parle pas des articles pointus. On va publier nous-mêmes très bien nos affaires. Mais un livre de référence qui est, je ne sais pas moi, La mécanique des fluides, par exemple, il va être ensuite traduit par un traducteur et il sera dans un bon anglais qui n'aura pas l'odeur francophone désagréable pour un anglophone. Voilà, je pense que là, on a des responsabilités de faire briller la science française. Je dirais même que le français peut être parlé par des Américains. On a dans nos laboratoires, moi j'en ai connu plusieurs, des gens qui sont attirés par l'excellence de tel ou tel laboratoire, je ne citerai pas des laboratoires de ma discipline, mais et qui viennent régulièrement passer un mois tous les ans. Et ces gens-là ont la courtoisie d'apprendre le français. Donc je ne pense pas que la partie soit perdue, mais je pense qu'il y a une grosse responsabilité sur les seniors.
Il y a quand même une compétition entre les langues, malheureusement.
Oui, probablement. Je ne sais pas s'il y a une compétition. Parce que l'anglais, de toute façon, tout le monde est obligé de s'incliner devant l'anglais. Et c'est normal et c'est bien. C'est même pas de l'anglais, d'ailleurs. Vous savez, quand on est dans les conférences, les gens parlent extrêmement mal. Les Français parlent mal, mais les autres aussi. C'est une espèce de... Je ne sais pas comment s'appellerait cette langue-là. Ben, c'est une langue commune et il faut bien qu'on parle tous la même langue. Je trouve que c'est bon.
Et pour terminer cette émission, il me semble que vous souhaitiez aussi parler de ces publications, ou en tout cas de ces communications qui peuvent être faites aussi en français, ne serait-ce que parce qu'ils sont financés, ces chercheurs, par les Français.
C'est un fait. En particulier, là, je lisais les livres de synthèse ou même des livres grand public, mais enfin, certains articles spécialisés qui sont lus par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de Français qui savent lire des choses scientifiques, condition qu'elles ne soient pas trop pointues. Bon, la France nous a financés, elle a le droit de savoir ce qu'on fait, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui paraissent, mais il y a des bonnes revues de vulgarisation, c'est aussi un devoir pour les chercheurs de publier, encore une fois, des chercheurs qui ont déjà une certaine reconnaissance, puisque les autres, malheureusement, doivent faire la course à la bibliométrie.
Eh bien, merci Odile Maki, et je l'espère à une prochaine fois pour une prochaine émission.
C'était avec plaisir, Élodie.
Merci.
Volontiers, merci.